Murphy, vous écoutez la radio du monde. Bienvenue, 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
L'actualité, le retour des ambassades en Syrie après la Turquie. Le drapeau du Qatar flotte de nouveau dans le ciel de Damas après 13 ans d'absence. L'Allemagne, traumatisée au lendemain d'une attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël à Magdebourg. Bilan provisoire de 5 morts et 200 blessés. Une cérémonie d'hommage a eu lieu dans la cathédrale de la ville endeuillée. La Colombie, condamnée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour avoir renié les droits d'un peuple autochtone. Bogota avait autorisé des projets pétroliers, gaziers et miniers à leur détriment. Et puis, au large des côtes bretonnes, en France, un navire russe en perdition. Nous y reviendrons. La Syrie tient son nouveau chef de la diplomatie, Assad Hassan al-Shibani. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères par les nouvelles autorités syriennes. Il devrait organiser les relations avec les représentations étrangères qui font peu à peu leur retour à Damas après la chute de Bachar al-Assad. Vincent Souriau.
Après 13 ans d'absence, le Qatar vient de rouvrir son ambassade en Syrie. Elle avait fermé dès juillet 2011, quelques mois après le début de la répression orchestrée par la famille Assad contre les manifestants pro-démocratie. Les Qatariens prennent la suite de la Turquie, première nation à reprendre pied à Damas. L'ambassadeur turc s'y est installé moins d'une semaine après la chute de l'ancien régime. Il y a quelques jours, l'Union européenne s'est dit prête, elle aussi, à suivre le mouvement et à ranimer sa mission diplomatique sur place. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les États-Unis n'ont pas encore sauté le pas, mais ces quatre pays ont envoyé des émissaires en Syrie afin de se familiariser avec le nouveau pouvoir. Le drapeau français a bien été hissé au fronton de l'ambassade de France à Damas, mais le bâtiment reste jusqu'ici fermé et le restera selon les autorités françaises tant que les critères de sécurité nécessaires à sa réouverture ne seront pas remplis.
Contribuer à la paix régionale, construire des partenariats stratégiques et refuser toute polarisation. La volonté d'ouverture aux pays de la région affichée hier par les nouvelles autorités à Damas. L'actualité dans la région, c'est aussi Gaza, un accord de cessez-le-feu plus proche que jamais selon le Hamas et deux autres groupes palestiniens. Dans un communiqué, ils évoquent une possible trêve et un échange de prisonniers avant la fin de l'année. Mais pour cela, il faudra qu'Israël, je cite, cesse d'imposer de nouvelles conditions. De son côté, le pape François a condamné la cruauté de la frappe israélienne qui a tué 7 enfants à Gaza. Des critiques déconnectées selon l'État hébreu qui accuse le pape de deux poids deux mesures. L'Allemagne, encore sous le choc après cette attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël à Magdebourg. Pour l'instant, 5 morts et 200 blessés. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est recueilli à Magdebourg pour la cérémonie d'hommage. Les autorités allemandes commencent à lever le voile sur les motivations encore confuses du suspect. Un médecin saoudien qui se croyait persécuté par l'État allemand qui l'accusait de vouloir islamiser l'Europe. Un islamophobe d'après la ministre de l'Intérieur allemande. Sur les réseaux sociaux, il exprimait un discours radical, complotiste et ne cachait pas sa sympathie pour les thèses d'extrême droite. Direction les États-Unis, le pays est passé tout près de la paralysie budgétaire qui aurait renvoyé sans paye des centaines de milliers de fonctionnaires chez eux pour les fêtes. Le Congrès a adopté une loi qui assure le financement de l'État fédéral jusqu'à mi-mars et il prévoit aussi, Vincent Souriau, un énorme chèque, une aide de 100 milliards de dollars en faveur des régions sinistrées par les ouragans Helene et Milton au début de l'automne.
Cette enveloppe, c'est l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence qui va la distribuer. À travers cet organisme, le gouvernement américain rembourse les États fédérés et les collectivités locales qui ont cassé leur tirelire après le passage dévastateur des deux ouragans. Il a fallu débarrasser les débris, mobiliser du matériel lourd, payer des heures supplémentaires aux pompiers et aux policiers. Toutes ces factures vont être réglées. Le texte inclut aussi des aides directes pour les populations touchées, jusqu'à 42 000 dollars par foyer pour la reconstruction des bâtiments détruits. Gros coup de pouce pour les agriculteurs, 21 milliards, répartis entre la Floride, la Virginie, la Géorgie ou la Caroline du Nord, afin de soulager les exploitants qui ont tout perdu. Le texte prévoit aussi de quoi refaire des ponts et des routes, renfloue la NASA, l'agence spatiale américaine, pour qu'elle répare ses équipements endommagés et libère des fonds pour l'achat d'un nouvel avion spécialisé dans la détection des phénomènes cycloniques.
Vincent Souriau du service international des RFI. filles. Radio France Internationale, 20h05 à Bogota, la Colombie, condamnée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour avoir renié les droits d'un peuple autochtone, les Uwa. Bogota avait autorisé sur leurs terres des projets pétroliers, gaziers et miniers à leur détriment et sans les consulter, Simon Rosé.
Leur culture et leur environnement, leurs forêts ont été endommagées. Ils ont également été victimes de violences et d'intimidations. Les indigènes Uwa obtiennent cependant réparation devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. L'institution qui siège au Costa Rica reconnaît la culpabilité de la Colombie. En cause, 7 projets d'exploitation minière, pétrolière et gazière au sein de la réserve naturelle où vivent les Uwa au nord du pays. Cela fait 20 ans qu'ils ont été lancés sans consultation et au mépris des titres de propriété des autochtones. En conséquence, la Colombie va devoir régulariser la situation. Outre une indemnisation, Bogota va devoir attribuer des titres de propriété aux Uwa dans les régions où ils vivent. Les dégâts environnementaux devront également être atténués. Et enfin, la gouvernance de ces exploitations va devoir évoluer. Les Uwa auront en effet désormais voix au chapitre dans les processus de décision qui concernent les actions menées sur leur territoire.
Au large des côtes bretonnes, ce navire russe s'est retrouvé en grande difficulté. Son nom, le Sparta, il fait partie de la flottille envoyée en Méditerranée pour évacuer des matériels sensibles présents en Syrie. Depuis la chute de l'allié de Moscou, Bachar al-Assad, le récit de Franck Alexandre.
Mardi 17 décembre, 21h51, la nuit est tombée sur la toujours très agitée mer d'Iroise. C'est alors que retentit l'alerte. Les autorités maritimes ont détecté une anomalie sur la voie descendante du rail d'Ouessant. Le porte-container russe Sparta, 120 mètres de long, est visiblement en grande difficulté.
J'ai des problèmes, j'ai actuellement les moteurs en panne, la barre ne répond plus, on essaye de réparer dans les prochaines minutes.
Sans moteur, le navire va alors, durant 61 minutes, subir une dérive non contrôlée dans une mer formée au milieu des autres bateaux.
Tout est réglé, tout fonctionne, on reprend notre cap.
Après avoir refusé toute assistance, le Sparta finit par reprendre sa route, sa très longue route vers la Méditerranée, mais sans avoir pu cacher à la marine française son triste état, véritable reflet d'une marine russe qui peine à maintenir ses navires au meilleur standard.
Un premier bilan riche d'enseignements. En France, sur le périphérique parisien, après l'abaissement de la vitesse maximum de 70 à 50 km/h, les objectifs semblent en passe d'être tenus. Moins de bouchons, moins d'accidents, moins de pollution et moins de bruit. L'initiative parisienne est regardée de près ailleurs dans le monde par de nombreux autres mégalopoles qui souhaitent réduire la place de la voiture, Simon Rosé.
Moins 20% de bouchons, moins 20% d'accidents, un bruit diminué de moitié, un quart de particules fines en moins et des rejets de dioxyde d'azote en diminution de 13%. Les effets de la réduction de la vitesse maximum sur le périphérique parisien sont là et pas au détriment des automobilistes. La vitesse moyenne et le nombre de véhicules sont eux restés stables. Une évaluation réalisée sur les mois d'octobre et novembre 2024, les deux premiers complets depuis l'entrée en vigueur de la mesure, est comparée avec la même période l'an dernier. Il manque cependant encore des données sur les autres grands axes pour voir si une partie des nuisances s'est reportée sur d'autres portions de la voirie parisienne. Cela dit, les premiers enseignements sont donc bons et sont suivis non seulement par l'exécutif de la capitale française, mais également par d'autres grandes villes dans le monde, principalement en Europe, où des mesures similaires sont engagées ou en projet. Oslo roule elle aussi à 50, Copenhague l'envisage et des villes comme Berlin, Madrid ou Rome ont déjà abaissé les vitesses limites de leur périphérique à 70 ou 80 km/h.
Simon Rosé du service environnement d'RFI. Un peu de sport. 7 mois après sa première victoire, le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a de nouveau battu le britannique Tyson Fury samedi à Riyad. Il s'est imposé au point par décision unanime 116 à 112. L'Ukrainien de 37 ans conserve ainsi ses ceintures de poids lourd et reste invaincu en 23 combats. Et puis du football, la Coupe de France a eu lieu hier, ce samedi, 32e de finale. Deux clubs de 4e division réalisent l'exploit. Le Puy élimine Montpellier, club de Ligue 1, 4-0. Et Saint-Brieuc se débarrasse du Havre, 1-0. Il est presque 2h10 à Paris, 1h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur RFI.